Chapitre 19. Belle malaxait son oreiller. Elle le secoua, le pétrit et le gonfla avant, enfin, de poser la tête dessus. En pure perte, hélas, elle ne parvenait pas à retrouver le sommeil. Elle se tourna sur un côté en soupirant. Allongée ainsi, elle avait vu sur les fenêtres de sa chambre sur la lune, lointaine et solitaire, qui éclairait le ciel nocturne. Se sent-elle aussi seule que moi ? S'interrogea la captive. Elle savait à quoi attribuer la solitude qui l'avait envahie. L'évocation de Villeneuve, d'Agathe, du père Robert. Et surtout, l'évocation de son papa bien-aimé, Maurice. D'ordinaire, la jeune femme s'efforçait de ne pas penser à lui. Elle en souffrait trop. Mais cette nuit, elle avait beau lutter, les souvenirs heureux affluaient. Belle chérissait ses souvenirs car ils lui permettaient de retrouver son père. Mais il soulignait aussi ce qu'elle refusait d'admettre, à savoir qu'elle ne le reverrait jamais. Elle avait conclu un marché, certes sombre et redoutable, mais elle devait s'y tenir. Tout ça parce que son père avait cueilli une rose. Pour elle. Pourquoi n'ai-je pas demandé une pâquerette, une fleur de tournesol, un œillet ? Murmurait-elle, le cœur lourd de regrets. Je n'en serais pas là aujourd'hui. Elle revoyait dans les moindres détails le jour où elle avait perdu son père. Maurice devait aller vendre ses jolies boîtes à musique dans une ville voisine. Chaque boîte était unique et nécessitait des heures d'un travail minutieux. Telle boîte avait la forme d'un château, telle autre d'une cathédrale ou d'un palais. Belle se souvenait du soin qu'avait pris son père pour dorer une miniature du palais de Versailles ou colorer les vitraux d'une Notre-Dame format poche. Qu'aimerais-tu que je te rapporte ? Avait demandé Maurice à Belle avant de partir sur son chariot tiré par Philibert. Une rose, papa, c'est tout, lui avait répondu l'enfant, consciente que la famille n'avait pas d'argent à dépenser en cadeau. Elle étendait la lessive quand Philibert était rentré sans le chariot, ni son père. Conduis-moi à lui, avait demandé Belle au cheval. Elle tremblait à l'idée que son père ait eu un accident ou se soit fait attaquer en chemin. Philibert l'avait emmené à travers bois jusqu'à un très vieux château, perdu dans une forêt sombre. Belle avait mis pied à terre devant l'édifice, appelé le propriétaire, mais personne ne lui avait répondu. N'écoutant que son courage, elle avait pénétré dans le château et avait fini par trouver son père, prisonnier d'une tour. « Papa !» s'était-elle écriée en se jetant contre les barreaux de sa cellule. « Belle, c'est toi !» s'était étouffé Maurice. Comment as-tu su où j'étais ? Belle, tu ne dois pas rester une seconde de plus ici. Ce château est vivant. Pars, avant qu'il ne te mette la main dessus. C'est alors que la bête avait surgi, dans un tourbillon de cris et de coups. Effrayée dans un premier temps, Belle s'était ensuite reprise pour exiger la libération de son père. Le monstre avait refusé. Alors elle avait proposé de prendre sa place. Maurice était de toute évidence malade. La fille avait promis de le faire évader. Hélas, elle savait qu'elle ne pouvait l'abandonner prisonnier de cette tour. La bête avait accédé à sa requête et relâché Maurice. Belle ne l'avait plus jamais revu. Elle pensait à lui 100 fois par jour. Elle tremblait pour lui, souffrait de son absence. Ils avaient toujours vécu ensemble, mais à présent, il était seul. Qui allait prendre soin de lui ? Qui saurait lui préparer son café le matin ? Qui lui rappellerait de mettre une laine à l'approche de l'hiver ? Belle sentit à nouveau poindre les larmes, comme lorsqu'elle avait raconté une histoire à Zip. Alors, pour se changer les idées, elle se leva, enfila une paire de pantoufles fourrées, puis sa bonne robe de chambre, et se dirigea vers les fenêtres. Le givre dessinait des tourbillons de soie sur les carreaux. Il avait neigé depuis la fin d'après-midi. Un épais manteau blanc scintillait au clair de lune. La captive contemplait la nuit d'hiver quand l'énorme horloge du rez-de-chaussée sonna l'heure. Les coups résonnèrent, tristes et profonds, dans tout le château.
Minuit,
prononça Belle après le 12e. Je ferais mieux de me recoucher. Elle regarda son lit sans grand espoir. À Villeneuve, quand elle ne trouvait pas le sommeil, son père lui proposait une boisson chaude et suggérait de lire à la bougie.
Une tasse de lait chaud, ça sera parfait, estima Belle. Et un bon livre pour aller avec.
Elle alluma une bougie aux braises de la cheminée, puis quitta sa chambre en veillant à ne réveiller personne. Des braises encore rouges, il y en avait aussi à la cuisine. Elle diffusait une chaleur accueillante. Une marmite contenant le porridge du lendemain matin était suspendue au-dessus. Un grand saladier de pâte à pain, recouvert d'une serviette, levait sur la table en bois. Des paniers de pommes, de poires et de coings attendaient d'être transformés en tartes et compotes. Belle adorait cette atmosphère douillette. La cuisine était, après la bibliothèque, la pièce qu'elle aimait le plus au château. Le fourneau y dormait à point fermé. La jeune femme se fit chauffer discrètement un peu de lait dans une casserole. Pour éviter de réveiller Zip et Madame Samovar, elle le versa ensuite dans un bol, puis y ajouta une cuillère de miel. Après avoir nettoyé et rangé la casserole, elle se dirigea vers la bibliothèque, son bol dans une main, sa bougie dans l'autre. Elle trouva la grande salle froide et sombre. Cela dit, la cheminée était déjà chargée. Belle embrasa le petit bois à l'aide de sa bougie. Quelques minutes plus tard, un bon feu rougeoyait. Deux fauteuils moelleux séparés par une table basse se faisaient face devant l'âtre. Le coin lecture idéal. Il ne manque plus qu'un livre, observa Belle. Elle aurait bien visité Nevermore une deuxième fois, mais elle ignorait si le temps s'écoulait là-bas comme dans le monde normal. Et elle se voyait mal toquer à la porte de la comtesse en pleine nuit. La jeune femme reprit donc sa bougie pour aller explorer les rayonnages. Elle manqua trébucher sur un volume abandonné par terre, redoutable pirate. À côté, les contes de ma mère Loi, de Perrault, ainsi qu'une édition des fables, d'Ésope. Zip, devina Belle en secouant la tête. Elle remit à leur place le livre de pirate et le Perrault. Elle s'apprêtait à faire de même avec le recueil de fables, quand la splendeur de sa couverture l'arrêta. L'illustration représentait un lion montrant une patte maculée de sang. Un homme lui tendait la main. « Androclès, » murmura Belle. L'histoire de l'esclave en fuite et du lion qu'il avait secouru était une de ses fables préférées. Son père la lui avait souvent lue. Son regard s'attarda sur la couverture. Les traits courageux d'Androclès, la mine tourmentée du lion. Ce faisant, les paroles de Zip lui revinrent en mémoire.
Il est comme ça parce qu'il souffle lui aussi.
Comme le lion, souffle Belle.
Zip, tu es un génie. Sur ce, elle se releva. Elle ne tenait plus en place. Elle venait de trouver le moyen de forcer la bête à se confier et peut-être à lui donner des réponses. Les mots ne suffisaient pas toujours car ils ne s'adressaient qu'à la tête. Mais une histoire dans laquelle ils sont agencés comme les perles d'un collier, voilà qui pourrait toucher le cœur de la bête. Belle emporta le recueil près du feu dans l'intention de le lire. Son plan était prêt. Dès le lendemain, elle irait trouver la bête pour évoquer ensemble l'histoire d'Androclès. Mais en approchant de la cheminée, elle comprit qu'elle n'aurait pas à attendre si longtemps. En effet, la bête se tenait dans l'embrasure de la porte. Vêtue de son ample robe de chambre, une bougie entre les griffes, elle affichait un air fort inquiet.